Bonsoir, nous continuons donc aujourd'hui notre cycle de conférences avec le professeur Piero Guz, qui, dans les conférences précédentes, nous a présenté les premières installations des Grecs en Italie méridionale, Apithecus et Accum. Il a continué par la Sicile orientale et nous revenons maintenant sur le continent, si j'ose dire, avec la fondation de Sybaris et les rapports des Grecs avec les peuples indigènes du nord de la Calabre. Sybaris, c'est retour aux sources, en quelque sorte, puisque le professeur Guz y a commencé sa carrière scientifique sérieusement, puisqu'il y a fouillé pendant plusieurs années à l'époque de la grande fouille de Sybaris. Et je pense que c'est sur cette expérience personnelle qu'il a bâti tout son discours.
Bonsoir. La côte ionienne est la troisième zone géographique intéressée par les fondations grecques et bien avant cela, depuis l'âge du bronze, par les échanges de biens entre indigènes et grecs. Sa position géographique a favorisé les relations avec la Grèce au cours de la protohistoire. Comme l'indique à la fois l'importation de céramique mycénienne à Termitito, e près de Metaponto e a broglio di Trebisacce, giusto au nord de la future Sybaris, e la production locale d'imitation des céramiques grecques. La fondation d'établissements permanents au cours du haut archaïsme est toutefois un phénomène plus récent que celui observé dans le golfe de Naples et très probablement sur la côte orientale de la Sicile. Pour comprendre cette diachronie qui semble contraire à la logique géographique, en plus que ce qui a déjà été dit lors de la première conférence sur une route empruntée par les Phéniciens qui rejoignait les mers tyrrhéniennes venant de l'Ouest, je renvoie à ce que j'ai déjà présenté à propos des Corcyres en attendant d'y revenir plus tard. Après une phase d'échange au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, les relations avec l'Orient sont à nouveau attestées en Calabre septentrionale à partir de la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, sur les deux versants, tyrrhénienne et ionienne. De la côte tyrrhénienne provient un encensoir en bronze. C'est à Iello, qui est le lieu de provenance de cet encensoir, est ici. Un encensoir en bronze décoré de motifs en relief de bateaux solaires, trouvé dans un temple féminin numéro 6 de Chiane di Serra Iello, datant de la première moitié du 8e siècle avant. Deux exemples similaires ont été déposés dans deux tombes contemporaines à Pontegagnano. Pontegagnano, ici. Un pendentif circulaire étrusque, un peu plus récent, constitué d'une feuille d'or avec des cercles concentriques de points en relief formés et cupules au centre, provenant de la tombe féminine 14 du même cimetière. De même époque date un casque, un fragment de casque, il faut être honnête, à Crète, à Éperon. Dans ce fragment a été trouvé dans le sanctuaire d'Imbelli à Serra Iello. S'il y avait un fragment, il y avait le casque entier, c'est assez logique. La concentration de découvertes du même genre semble en faveur de la localisation de cette zone de l'Homérique Thémise et des mines de cuivre dont elle tirait sa réputation. Sur les versants ioniens, notons la présence d'un fragment de manche du rasoir en bronze villanovienne à Torre Mordillo, tombe 23, et d'une coupe en bronze à décor en relief de production orientale trouvée dans la tombe S de Francavilla Marittima. Cette dernière n'est pas parvenue dans cette région juste avant qu'elle ait été placée vers le milieu du 8e siècle avant, dans la tombe qui l'a préservée. On sait maintenant qu'en plus d'être constituée d'une anse surélevée qui appartenait à l'origine à un conteneur différent, quoique fabriqué en Orient, cette coupe a été anciennement restaurée en employant des éléments de ceinture en bronze décorés de graffitis géométriques dénotant une production locale. Comme l'un de ces éléments de forme circulaire était inséré à la base de la tache de l'anse, on doit en conclure que la réparation est survenue à Francaville et qu'elle est l'œuvre d'un dinandier local. Vous voyez ici, il y a un petit cercle en laiton avec des graffitis, et ici aussi. Et ces fragments avec des graffitis viennent de des éléments locaux, des ceintures en bronze qui ont été utilisés par des femmes dans les sépultures des femmes. Si l'hypothèse reflète la vérité, cela signifie que deux récipients métalliques, au moins, ou des parties de ceux-ci, sont arrivés à une époque antérieure au dépôt de la coupe dans la tombe. Mais quand ces vases sont-ils parvenus dans la zone de Francaville? Cette découverte fait partie de celle dont l'identification des vecteurs reste imprécise et équivoque. Étaient-ils phéniciens ou plutôt obéennes? Peut-être principalement d'Érythrée, compte tenu de leur établissement à Corcyr. Comme cela semble préférable, étant donné l'activité des obéennes dans la région du Détroit et en Sicile orientale. On a récemment proposé d'identifier une production de céramique peinte de Francaville Maritima comme l'œuvre de potiers eubéens. Cette céramique commence à être fabriquée avant le milieu du 8e siècle et elle est utilisée sur une vaste étendue de territoire de Torre Mordillo jusqu'à l'incoronata di Metaponto, probablement. On remarque en particulier quelques fragments d'un cratère sur lesquels sont peints des lettres en alphabet grec. Sur les fragments en bas, on distingue un epsilon écrit de gauche à droite et un theta avec les points au centre, mais sans possibilité, à mon avis, de comprendre leur rédaction, si elle existait. La production de l'atelier supposé comportait à la fois des schifoi et, plus difficile à réaliser, des cratères sous vos pieds, décorés de chevaux pissants, apparentés à la production du peintre de Cesnola. Une telle interprétation n'est pas surprenante, après le travail pionnier éclairant de Laurence Mercury sur la céramique peinte géométrique de la nécropole indigène de l'ocre à l'âge du fer. L'auteur a proposé d'identifier une composante urbaine spécifique dans ses patrimoines décoratifs. La chronologie absolue de la production céramique urbaine et autres est rapportée à la chronologie générale un peu trop basse, selon moi, avancée par l'école hollandaise afin de justifier l'interprétation que cette école propose pour la dynamique interagissant entre l'établissement achéen de Sibéris et les centres indigènes préexistants. C'est ce que je vais essayer de démontrer ici après. Un indice supplémentaire d'une production locale dérivant des formes décoratives et des connaissances technologiques eubéennes résiderait dans l'identification d'un style à bande ondulée, mais on peut également le faire, ce style, faire dériver de l'un des styles de la syntaxe décorative indigène, précisément le style 3 de Francesca Ferranti, appliqué sur des récipients fermés, mais qui aurait pu être adapté à des coupes. En un mot, il n'est pas sûr que les influences étrangères soient aussi important que certains auteurs le croient. Deux vases intéressants appartiennent à cette production et autre. Une tasse d'argile fine, orange à vernis noir, à l'intérieur, à vernis noir à l'intérieur et réservée avec deux bandes noires à l'extérieur, a été trouvée dans la tombe féminine 10 de la nécropole Chiana di Serra à Iello, sur la mer tyrrhénienne. La lèvre n'est pas conservée, malheureusement, et on ignore donc sa décoration. Une seconde tasse a été trouvée hors contexte à Torre Mordillo, sur l'épaule, entre ces champs limités par des traits verticaux, une métope est ornée d'une ligne ondulée en peinture noire, mat. L'origine ethnique des potiers fait débat, au moins en tant que celle des producteurs de céramique de l'ocre. Les opinions divergent entre, d'un côté, celle qui fait de ces artisans des métis nés des mariages entre des Grecs et des femmes autochtones, et de l'autre, celle opposée qui attribue ces vases à des artisans sicules inspirés par des productions qui leur avaient fait connaître les Grecs. Cette deuxième hypothèse semble préférable. Elle suppose, de la part des indigènes, une connaissance des modèles plus anciens que les vases déposés dans les mobiliers funéraires, même si l'archéologie n'a pas encore trouvé ses plus anciennes importations. Pour en revenir à la première hypothèse, remarquons qu'il n'est pas sûr que la transmission du patrimoine génétique se soit accompagnée de celle de la maîtrise technique possédée par les parents. Sur la côte tyrrhénienne, en revanche, les échanges se faisaient avec les Étrusques du Sud, en particulier ceux de Ponte Gagnano, comme je l'ai déjà mentionné. Ceci qui s'explique par l'affirmation de Strabon, rapportant que les pirates tyrrhéniens rendaient ces rivages dangereux pour les navigations grecques. L'installation par Cum de Pisi d'une base de pirates à l'endroit qui allait devenir Zancle, et la cité fondée plus tard par Periere et Cratemene, a eu une double conséquence. D'une part, le rétrécissement progressif de la zone d'influence des Étrusques méridionaux dans les bassins médians de la mer tyrrhénienne. D'autre part, une série de fondations grecques de Tarente à l'ocre pisiférienne sur la côte ionienne à partir de la fin du 8e siècle avant. On estime que le début des fondations d'apocryphes grecques sur la côte ionienne est une conséquence de la conquête de Corcyre par un groupe de Corinthiens dirigé par Chersicrate, qui faisait partie de l'expédition destinée à fonder Syracuse, si l'on en croit les sources antiques. Si l'on fait abstraction de la question de la complète véracité de cette tradition, qui porte aussi sur la synchronisation de cet événement avec la fondation de Syracuse, il faut rappeler que Corinthe était déjà implantée à Ithaque. C'est de là que proviennent les spécimens éponymes de Cotyle, de la forme dit Aetos, du nom du lieu de découverte, 666, qui est le numéro du vase dans la publication de la fouille dans le Report of British School of Athens. Ce type de vase est utilisé comme fossile directeur des contextes pour la première moitié du 8e siècle avant. Il semble donc logique de supposer que la position stratégique acquise par Corinthe avec l'expulsion des Érythréens de Corcyre, les conduit à occuper progressivement la côte ionienne située en face avec des groupes de Grecs qui entretenaient des relations plus ou moins étroites avec elle. Les caractéristiques naturelles de ce littoral étaient adaptées aux sociétés archaïques. Différents types de sols permettaient des cultures variées, irrigué grâce à de nombreux cours d'eau. À l'intérieur, on trouvait de vastes forêts avec des arbres de haute futaille. Enfin, le territoire de la Calabre, recelé des filons d'argent, de cuivre et de fer, déjà connus dans l'Odyssée comme ceux déjà mentionnés de Thémès. Le gisement de fer de la région dans laquelle s'implantera plus tard Caulonia, Caulonia est ici, ont été exploités jusqu'à l'époque moderne. De l'Antiquité, des groupes humains les ont utilisés, comme le montrent les résultats des campagnes de prospection récentes qui ont permis de reconstituer les modalités d'occupation et leur durée. À toutes ces opportunités naturelles s'ajoutaient les facilités de communication. La côte ionienne constituait la route maritime directe vers les bassins tyréniens à l'ouest du détroit. La densité des colonies grecques le long de cette côte en est probablement la conséquence, ainsi du contrôle déjà mentionné de Corinthe sur le canal d'Otranto. En effet, l'économie globale des cités mères en était favorisée pour ce qui concerne les échanges de marchandises et de produits, mais aussi la dialectique sociale à l'intérieur des cités y trouvait un exutoire, et c'est jusqu'à ce que dans les troisième tiers du 8e siècle avant. La connaissance de ces régions, désormais acquise de longue date, la prospérité et le dynamisme des sociétés indigènes peuvent être identifiés comme d'autres éléments favorables à la fondation des Apogei. Nous pouvons retracer avec une certaine vraisemblance la route qui suivirent les Apogei Achéens de Sybaris en se fondant sur celle suivie par Michello, le ciste de Crotone, en obéissant à l'oracle de Delphes, selon le récit de Diodore de Sicile. Ce récit commence par la mention de lieux inhabités, que les manuscrits nomment Taphios, qui a été corrigé en Taphiassos. C'est le nom d'une montagne qui marque la frontière entre la Locride occidentale et l'Étolie. Et qui se trouve dans le golfe de Corinthe, presque en face de la ville achéenne d'Eripe, d'où était originaire Michello. La correction de ces faits est acceptable, d'autant plus que la leçon Taphios, qui donne les manuscrits, correspond au nom de l'île principale des archipels des Échinades que l'oracle de Delphes avait assigné comme quatrième étape du voyage. Cette île possède des zones favorables à l'agriculture et elle était habitée par une race de marins qui, sur leur roi Mente, s'étendait jusqu'à Thémès, selon un passage de l'Odyssée déjà mentionné. Thémès s'est localisée dans cette région qui est très proche, c'est la même région du lieu de Chiane di Serraiello, de laquelle vient cet encensoir en bronze, ce pendentif en or que j'ai mentionné au début. Étant donné la position géographique de l'île, sa mention au début de l'itinéraire serait incongrue, alors que celle du mont Taphiassos est parfaitement adaptée comme point de départ d'une route longeant la côte achéenne vers l'ouest. La deuxième étape est appelée Calchis. Dans la zone géographique qui nous intéresse, ce nom peut désigner soit une ville située aux sources de la rivière Acheloo, soit une montagne en Étolie, soit une ville toujours en Étolie, soit une île des Échinades. On a proposé qu'il s'agisse de la ville en Étolie, car cette région s'ouvre sur la mer à l'entrée du golfe de Corinthe. Il convient de noter que cette Calchis duplique le nom ancien de la ville plus connue de l'île d'Ubée, qui probablement avec Érythrée n'était pas étrangère à la fréquentation et au commerce dans ces secteurs maritimes, comme le montre l'histoire la plus ancienne de Corcyre déjà citée. Entre la Chalcis étolienne et l'archipel des Échinades, situé au large de l'embouchure du fleuve Achelo et abrité des coups de mer par les îles de Leucade et d'Ithaque, s'est trouvée la troisième étape, appelée la terre sacrée des Courettes, avec une lacune dans le texte entre les deux termes. Compte tenu du contexte général étolien de l'oracle, l'emplacement de cette terre sacrée doit être recherché dans la même région. À plus forte raison, pour une meilleure cohérence, il faut la chercher sur l'itinéraire. Il existe une tradition remontant aux temps héroïques qui fait dériver du mont Carion le nom de la peuplade de Pleuron, où les Courettes luttaient contre les Étoliens pour la conquête de Calydon. Cette identification est possible car sa situation à l'intérieur des terres est similaire à celle de Montafiassos, qui est nommée au début de l'itinéraire, qui fait pendant à d'autres noms de lieux sur les zones côtières et des îles. On pourrait donc supposer que les sommets des montagnes étaient utilisés comme amers pour déterminer la direction de la route, tandis que les abris nommés les longues des côtes servaient au mouillage. L'itinéraire s'est poursuit avec l'ouverture sur la Grande Mer, formée par la mer Ionienne et le canal d'Otrante, qui s'ouvre à bâbord pour les marins s'il est prévu de ne pas remonter la côte de la Carnie vers le nord-ouest. L'oracle ne dit pas à quelle latitude effectuer la traversée vers l'Italie, mais la route entre l'île de Corsire et Capo di Leuca ou Otranto est la plus sûre et la plus courte. L'apogée de Sybaris semble avoir été décidée par une délibération commune de toutes les composantes des Achéennes. Son hésiste, nommé Oïs, était originaire de Élis, cité où se réunissaient les conseils des Achéennes. Dans le même sens, constatons que pour Sybaris, comme pour les autres fondations du même peuple, on employait pour les caractériser l'utilisation insistante d'un terme ethnique plus fréquemment que pour les autres groupes de villes. Les noms anciens de la fondation qui duplique celui du fleuve côtier qui coulait au nord de l'établissement et la deuxième hydronyme Kratis, nom de fleuve qui coule au sud, sont empruntés à des hydronymes connus en Achaïe. Ici, l'énorme, c'est à droite. Et nous avons ici le Kratis contemporain, mais vous voyez, j'espère, la trace d'un ancien fleuve, ici, plus au sud. Et le Cochile, aujourd'hui, ici, avait une... faisait un parcours à peu près comme ça. Sybaris est une source près de Boura, Kratis une rivière à Aegae. L'origine géographique de ces noms, pris dans deux zones de l'Achaïe, suggère de plus que le corps expéditionnaire, par une politique délibérée, était formé d'apôtres issus de différentes localités. À ces groupes composites, mais ethniquement et culturellement cohérents, s'ajoutait un contingent de Trézènes provenant de la côte orientale du Péloponnèse. Ce que l'on sait de l'histoire de Trézènes ne permet pas de connaître la raison pour laquelle cette cité a rejoint l'entreprise achéenne, à moins de supposer que sa rivalité, la rivalité de Trézènes contre Argos, l'a poussé à s'associer à une initiative placée sous l'influence de Corinthe, qui c'était la grande rivale d'Argos. On peut émettre légitimement l'hypothèse que dans cette cité aussi, des problèmes sociaux étaient nés de la difficulté d'attribuer des lots de terre à des potentiels politaï. Cette hypothèse est aussi valable pour les Achéens. Quelle que soit la raison de cette association, les Achéens accrus d'un nombre, comme dit Aristote dans sa Politeia. On finit par expulser les Trézéniens de Sibéris, peut-être en raison de l'arrivée des nouveaux contingents venus d'Achaïe et pas seulement à cause de l'accroissement naturel de la population. Ces Trézéniens expulsés se réfugièrent à Posidonia. Les auteurs anciens ne donnent aucune indication sur l'époque où ces événements se sont produits, de sorte qu'il n'est pas certain que la fondation de Posidonia soit due aux Trézéniens expulsés de Sibéris, comme certains historiens modernes l'ont proposé. Ils ont pu tout aussi bien se réfugier dans une ville déjà existante, et la véritable crise de Posidonia a pu avoir lieu antérieurement et être due aux seuls Sibérites. Le site choisi pour la fondation achéenne de Sibéris est localisé, était localisé, pour dire la vérité, pas aujourd'hui, pas, mais au 8e siècle, oui, était localisé entre les embouchures de deux fleuves côtières, le Sibéris au nord et le Crates au sud. Depuis quelques siècles, les premiers, maintenant appelés Cochiles, se jettent dans les secondes. Oui. Au contraire d'autres cas, tel celui de Gela, en Sicile, les hydronymes grecs sont venus peut-être remplacer des noms locaux. Je dis bien peut-être parce que nous n'avons aucun indice qui permette d'assurer ou de nier l'existence d'anciens noms et neutres pour ces fleuves. De tels noms signifieraient un intérêt ou une attention des énôtres pour la plaine et ses particularités physiques. La fondation est située au centre d'une grande plaine, aujourd'hui fertile, entourée par les contreforts de la Sila et des Apennins de Calabre et de Lucanie. Les auteurs dominant la plaine étaient habités par des groupes d'énôtres qui, depuis près d'un siècle, avant la fondation de la colonie, entretenaient des rapports avec des marins grecs. Les confins de la plaine au bord de la mer sont constitués de banques de sable formées par les paléodunes sur lesquelles ont été construites les premières habitations des Apogoi dans une zone jusque-là inhabitée par les énôtres comme le reste de la plaine, autant qu'on le sache à présent. Les rivages, en retrait par rapport aux traits de côte actuels, étaient sablonneux et bas. L'embouchure des deux fleuves offrait des possibilités de mouillage et leur cours servait de voie pour pénétrer dans l'arrière-pays. Nous sommes incapables de chiffrer le nombre des Apogoi achéens, comme de toutes les autres expéditions, faute d'informations dans les sources littéraires antiques et par insuffisance de la connaissance archéologique actuelle. On peut en dire autant de toutes les autres ctises d'Occident remontant à la même phase chronologique que Sibéris. C'est seulement pour la fondation plus récente de Velia que Michel Gras a pu calculer de manière convaincante un nombre total d'arrivants de 5000 personnes environ, y compris les femmes et les enfants. Ceci, cependant, ne sont que les survivants de l'exode de près de la moitié de la population des fossés. La ville a été complètement abandonnée dans un premier temps pour ne pas être soumise à la domination des Perses. Mais par la suite, environ la moitié préfère rentrer chez eux et, plus tard encore, une certaine proportion d'entre eux fut tuée dans la bataille de la mer de Sardaigne où ils combattirent les Étrusques et les Carthaginois, selon le raconte le récit d'Hérodote. Velia est donc un cas particulier, comparable seulement à Siris, cette dernière fondée au cours du premier quart du 7e siècle avant, fut également formée de l'émigration, sinon de la totalité, du moins de la majeure partie de la population de la métropole, Colophon. Mais aucune autre fondation occidentale n'est dans ces cas autant que nous le sachons par les sources. Pour la première génération des fondateurs de Megara Iblea en attendant l'achèvement d'une étude en cours sur la nécropole, nous n'avons pas, comme pour Sibéris, d'informations littéraires. Mais la vaste fouille archéologique qui a été menée a conduit à proposer, de façon convaincante, une population de 8000 à 10000 personnes au cours du 6e siècle avant Jésus-Christ, lorsque la ville fut dépeuplée par Gélon de Syracuse. On peut en déduire, en tenant aussi compte le nombre des puits des hauts archaïsmes, que les apogées, 6 générations avant cette fête, cette dépeuplement et la déportation par Gélon, comptaient près d'un millier de personnes, non seulement des hommes, mais aussi des femmes, étant donné que les Mégariens se trouvaient en Sicile depuis plusieurs années déjà, comme nous avons vu un rapport aux événements qui les intéressaient. Pour Pithecus, plutôt que les estimations démographiques, il vaut mieux rappeler la liste présentée et discutée par David Ridgway des difficultés et des incertitudes qui empêchent de croire que de telles reconstructions soient dignes de foi. Nous n'avons aucune information sur l'importance démographique des établissements et autres de la Sibaritide à la fin du 8e siècle avant. Il n'apparaît pas justifié, à ce qu'il me semble, de proposer des estimations en l'absence d'une connaissance archéologique complète, soit d'un habitat, soit d'une nécropole. Nous ne savons pas non plus si, au-delà des spéculations sur des activités productives spécialisées, il existait une unification des différents habitats groupés par un lien de nature politique, entre guillemets, naturellement, tel que, dans des cas exceptionnels, ces communautés puissent former une alliance défensive, voire offensive militaire, et donc une force armée constituée par la somme des hommes valides vivant dans les différents centres habités. Mais les énôtres ont-ils ressenti le besoin de se défendre militairement contre les nouveaux arrivants? Dès avant la fondation de la polis des Achéens, les contacts et les échanges sont bien attestés par les dépôts d'objets fabriqués outre-mer et pas seulement en Grèce, dans les mobiliers funéraires complètement énôtres de la future Sibaritide. Ces contacts et ces échanges eurent lieu dans un contexte pacifique, avec des avantages mutuels sans provoquer des affrontements armés. L'implantation d'un groupe d'Achéens dans la plaine, dans la zone qui ne présentait pas d'intérêt pour les énôtres, pourrait ne pas avoir causé d'allarme immédiate. Mais nous pouvons supposer que tout de suite après, les besoins de divers types que les apogées les poussèrent à changer les rapports avec les énôtres. La nécessité de procréer, de cultiver la terre, d'édifier les structures constitutives de la polis, des maisons ou remparts, a nécessité l'utilisation d'une force de travail qui ne peut avoir été fournie que par les énôtres. Pour la chronologie de la Ctesis de Sibéris, nous disposons de deux dates données par les auteurs anciens. La plus haute est 720, la plus basse 709 ou 8. Des couches profondes des deux principaux sites de fouilles appelés Stombi, ici, et Parco del Cavallo, ici, proviennent des fragments de coupes de Thapsos à panneau, des fragments d'un grand vase de production Iapige attribuable au géométrique récent 2 du Salento, ont été trouvés aussi au Parco del Cavallo. La chronologie absolue traditionnelle les daterait du dernier tiers du 8e siècle. Les schifoi de Thapsos sans panneau appartiennent au géométrique récent 2, tandis que ceux décorés de panneaux sont attestés avant, mais leur durée de production est longue. Selon la chronologie absolue traditionnelle, elle couvre les trois dernières décennies du 8e siècle avant. Notre connaissance des plus anciennes découverte faite à Sybaris montre une majorité absolue des produits grecs en face de quelques fragments de vases iapyges, mais non en autres. La chronologie absolue traditionnelle de ce qui est connu archéologiquement des ruines de Sybaris ne permet pas de préférer la date haute pour la fondation de la Phocéa transmise par certaines sources littéraires plutôt que la date basse. D'autant plus que les fragments de Skiphoi de Thapsus n'ont pas été retrouvés dans un contexte associé à une habitation, de sorte que l'on ne peut déduire avec certitude leur contexte originaire d'utilisation. Cependant, le manque absolu à ce jour de vestiges d'habitat qui indiqueraient une présence indigène au parc del Cavallo ou aux Stombi, pendant ou immédiatement avant la fondation, est un argument en faveur de l'hypothèse que ces Skiphoi ont été utilisés par un groupe d'Apokoi pour consommer leur ration alimentaire, fonction qui a été proposée pour cette forme de céramique. L'emplacement topographique où ces découvertes ont été effectuées pour l'instant semble favoriser une interprétation non comme trace d'une étape pendant un voyage, mais bien de l'installation primitive organisée et noyaux séparés, comme dans tous les établissements contemporains, y compris de la mère patrie et comme nous l'avons vu à Mégara et Blaire. Que cet établissement primitif corresponde à la fondation eusistique de la polis de Sybaris ou à la présence de groupes formés par des pionniers, nous ne pouvons pas le dire. Comme nous ne pouvons dire à quel moment du développement de l'établissement des Achéennes à Sybaris sont assignées les dates, en plus différentes, que dans la tradition littéraire. Contemporain de ces plus anciens témoignages, un Ascos du style à frange de fabrication en autre de la vallée d'Eucratis a été trouvé dans une tombe de Pithecus, numéro 325, qui contenait aussi un scarabée portant le nom du pharaon Bocchoris, qui, selon ceux qui lisent les hiéroglyphes, est inscrit ici. Sa présence implique la déposition ait lieu nécessairement après 720 au plus haut ou après 717 au plus bas. Date avancée pour l'avènement de Bocchoris dans le règne, qui ne dura que 5 ans. Cet objet permettrait d'attribuer la tombe au milieu ou peut-être mieux à la fin du dernier quart du 8e siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à présent, donc, on a découvert à Caen un vase de style à frange plus récent que celui de cette tombe. On peut donc en déduire que la production de cette classe de céramique cesse au moment de la fondation de Sybaris. Les vases grecs, neutres et iapyges sont à peu près contemporaine et se place dans les trois dernières décennies du 8e siècle, qui inclut évidemment le dernier quart du siècle et qui correspond à la durée moyenne d'une génération. Cet intervalle de temps comporte le terminus postquem constitué par la présence du scarabée de Bocchoris dans la tombe 325 de Pithecus. Dans l'état actuel des connaissances archéologiques, on ne peut pas définir plus précisément la chronologie absolue des matériels et des événements en question. En ce qui concerne les relations entre les Apogées achéennes et les Eunuques habitant la région où l'établissement grec fut implanté, la documentation archéologique aujourd'hui disponible a été interprétée de deux façons différentes. La La première, qui suppose une coexistence pacifique et une coopération mutuelle entre Grecs et indigènes neutres, se fonde principalement sur la continuité d'utilisation de ce bâtiment 5, bâti au sommet d'une colline au nord de Sibaris. Vous voyez ici un plan plus détaillé. Découvert sur le timpone della Motta a Francavilla Marittima, sulla continuité, la continuité d'utilisation du bâtiment 5, la continuité présumée de la fabrication de la céramique neutre de style à frange durant les premières décennies du 7e siècle avant, et sur la manque de toute trace d'habitants indigènes de la fin du 8e siècle dans la zone où se tendra ensuite la cité de Sibaris. L'interprétation opposée met en avant la désagrégation totale des systèmes territoriaux locaux qui auront été causés par les arrives des apokoi, provoquant une interruption de l'organisation socio-productive des nôtres. En témoigne la dénomination dramatique des sépultures nôtres à Francavilla Marittima à partir de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Je crois que cet histogramme, c'est bien éloquent. Vous voyez ici le nombre de tombeaux du 8e, 7e et 6e siècle. Tombe. Et autre témoignage particulier des nombres de sépultures à Francavilla, il y a. Ici, c'est un plan schématique des principaux lieux de l'âge du fer, habités jusqu'à la fin du 8e siècle, qui sont abandonnés, en effet, à la fin du 8e siècle. Ils sont Torre Mordillo, ici. Prunetta, c'est plus à l'intérieur. De terre, Torano Castello, encore plus à l'intérieur, Castiglione dei Paludi, ici, et en particulier du Rione Vecchio di Amendolara, qui est ici et qui est substitué par un plus récent habitat éloigné. Toutes ces localités étaient jusque-là habitées par des populations de cultures énôtres. Les deux études les plus récentes sur la céramique peinte énôtre, même si elles ne s'accordent pas sur la chronologie absolue, estiment que cette production disparaît juste après la fondation de la cité achéenne. C'est-à-dire que la présence d'un ascos à frange dans la tombe 325 de Pithecusa dénote que cette tombe a été fermée avant la fondation, dans la même année, en contemporain, de la fondation officielle de Sibaris. À partir des études sur les découvertes faites à Francavilla Marittima, les chercheurs ont considéré que la production et l'utilisation des poteries peintes et autres s'est poursuivie jusqu'au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moins une ou deux générations après la plus récente date donnée par les sources pour la fondation de Sibaris. C'est le deuxième argument de la première hypothèse, de l'hypothèse de la coexistence pacifique de la coopération mutuelle entre Grecs et nôtres. Mais il faut souligner que ces vases ont été découverts non dans des couches scellées et fiables, mais dans des contextes de dépotoirs et donc en position secondaire. Même en l'absence d'accord sur la datation absolue, on retiendra donc qu'en chronologie relative, la fin de la production de la céramique peinte et nôtre s'est produite immédiatement après la fondation de Sibaris. Malgré l'interruption de la production et de la dynamique de l'habitat des nôtres occupant la zone de Sibaris, il est à supposer que, comme dans beaucoup d'autres cas similaires, les apocryphes n'ont pas procédé à une élimination totale des neutres, mais plutôt à leur asservissement. Outre les mariages mixtes, qui sont un modèle général, dont les bobines trouvées dans différents secteurs de la ville grecque et servant à rouler les fils pour les tissages sont peut-être les témoins archéologiques, nous pouvons supposer, grâce à la découverte des trousses d'hôtels de charpentiers dans des mobiliers funéraires, que les apocryphes exploitèrent à leur avantage les compétences traditionnelles de la population. En outre, les sources antiques rapportent que des oikédaï étaient employés pour les travaux agricoles. Il semble justifié de reconnaître en eux les descendants des neutres asservis. Les découvertes de céramiques modelées ainsi que des fragments de vases peints qui doivent être résiduels suggèrent que certains individus ont été forcés ou invités à habiter dans la Poikia nouvellement fondée. Il est possible que les neutres survivants aillent habiter soit dans des petits établissements dont l'occupation, comme celui de Francavilla Marittima, est antérieure à l'Actisis, soit dans d'autres, comme à Mendolara, nouvellement créés à quelque distance d'un plus ancien, comme nous avons vu dans ce plan. Par ailleurs, la richesse ultérieure de Sybaris, qui donnera lieu à un ample corpus d'anecdotes moralisantes justifiées, la défaite finale, ne peut s'expliquer que par la mise en valeur des potentialités agricoles et des autres ressources naturelles, minérales et forestières, présentes sur les territoires qu'elle contrôla et élargit progressivement. Attendre un tel degré de bien-être nécessitait l'exploitation d'une main-d'œuvre abondante qu'il faut identifier avec les habitants des 4 peuples et des 25 villes que Sybaris finit par dominer selon le récit de Strabon. Les termes hyparco et hypéco qu'utilise Strabon laissent entrevoir la suggestion politique résultant peut-être d'une défaite militaire, un processus qui ne permet pas la survie des traditions de la communauté énotre, sinon celle qui ne risquait pas d'affaiblir la suprématie des Sybarites quant à l'exploitation économique et de la production du territoire conquis. L'analyse de la documentation archéologique indique à propos des Zénotres, leur fragilité culturelle, au-delà du massacre dont parle la tradition pour certaines colonies ou des guerres de conquête pour des autres. Selon l'expression d'Ettore Lepore, lors d'une conférence qu'il donna ici même en 1982 à l'invitation de Jean-Pierre Vernant. En particulier, les Sybarites supplantèrent les cultes indigènes antérieurs et imposèrent les leurs. Le but était évidemment d'éliminer un puissant facteur d'identification culturelle potentiellement dangereux au niveau politique. Ainsi, comme dit encore Lepore, l'implantation des sanctuaires recouvre souvent les traces d'une culture éliminée ou assujettie et marque la prise de possession des terres environnantes. Revenons alors sur l'étude de cas qui constituait les vicissitudes du bâtiment 5, situé sur la hauteur de la timpone della Motta a Francavilla Marittima, et considéré par les archéologues hollandais comme un lieu de culte depuis l'âge du fer. La continuité de cette fonction est évident pour eux, en particulier entre la phase B et D de sa période de fréquentation. La première, attribuée au début de l'âge du fer, est marquée par un bâtiment rectangulaire à abside sur poteau porteur en bois. À l'intérieur duquel se trouvait un métier à tisser et un foyer. ici les métiers et ici les foyers. L'existence d'un métier à tisser est indiquée par une série de pesants d'un poids inhabituel, en céramique modelée, décorée de motifs de labyrinthe. Plusieurs objets de parure en bronze ont été découverts en relation avec les foyers. Lors de la phase de scie, les bâtiments 5 présentent un plan rectangulaire qui occupe une grande partie de l'espace utilisé à la phase précédente. Ici, vous voyez. Construit un poteau en bois dont les trous ont été fouillés, il est daté vers 700 avant Jésus-Christ. Ces vestiges sont retenus car l'édifice a été recouvert par une construction plus récente que les Hollandais ont appelée phase 2, dont les murs sont faits de briques de terre crue et avec un sol d'argile de couleur jaune qui a nivelé les vestiges des phases antérieures, quelque peu avant la moitié du 7e siècle. C'est-à-dire que toutes ces phases précédentes à la moitié du 7e siècle ont été scellées par ces sols d'argile jaune. La destination cultuelle de l'édifice abside de la phase B repose sur la taille inhabituel des paysans de métiers à tisser et sur la présence d'ornements féminines qui l'on suppose cadrés avec un rite supposé être lié à un métier à tisser sacré. La préservation d'une grande quantité de cendres supposerait une motivation d'observance religieuse. En résumé, cet argument et d'autres proposés par les fouilleurs tendrait à recréer une idéologie religieuse et neutre de l'âge de fer en se fondant sur des éléments similaires à ceux des Grecs, comme par exemple un hôtel formé seulement de cendres comme à Olympie. Les pratiques cultuelles se manifestent par des indices matériels qui n'ont pas nécessairement une fonction religieuse. Cela s'applique par exemple aux paysans de grande dimension qui sont connus ailleurs, comme par exemple la Castiglione d'Ischia dans l'île de Pitecus, où ils sont destinés à des tissages particuliers. Au total, la destination cultuelle du bâtiment 5 de Francavilla Marittima ne me semble pas prouvée avec certitude. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une habitation à l'intérieur de laquelle une production textile était organisée par la communauté. Un autre mode de gestion des relations avec les énôtres, probablement utilisé par les Grecs et puis aussi par les Sybarites, était de différencier l'attitude à l'égard des chefs et celle à l'égard du reste de la population, de façon à créer des fractures sociales à l'intérieur de ces sociétés. Un processus de désarticulation de ce genre semble avoir commencé dès la première implantation des Achéens. Au moins, en jugé par la relecture proposée ici des transformations subies par les bâtiments 5 de Francavilla Marittima. Dans la mesure où ces transformations se rapportent à la sphère des superstructures, elles semblent être historiquement et culturellement beaucoup plus importantes pour éclairer les relations entre les apocryphes et les énôtres que ne pourraient être les indices archéologiques à ce jour très réduits de la cité des Achéens durant la première génération des colons. En fait, cette lacune partielle est probablement temporaire de notre connaissance, probablement, espérant aussi l'espérance des fouilleurs toujours, de notre connaissance des vestiges de la première génération après la fondation est comblée du point de vue chronologique par les données sur la phase du géométrique récent recueillie dans les fouilles des Stombi et du Parco del Cavallo déjà mentionné. Jusqu'à présent, aucun indice archéologique ne permet de supposer un établissement indigène antérieur à la fondation de la cité grecque. Mais, contrairement à ce qui se passe à Naxos et à Mégareblea, par exemple, la zone de Sybaris mise au jour jusqu'ici est infime par rapport à l'extension réelle de la ville archaïque. La ville archaïque, c'est l'extension majeure. Et les chantiers des fouilles sont ici aux Stombi et ici à Parco del Cavallo. C'est-à-dire que nous avons à peu près un centième, un sur cent, d'extension de la ville archaïque fouillée à ce moment. De plus, à la différence des deux fondations siciliennes, les vestiges sont pour la plupart des temples occultés par des bâtiments des structures remontant à des phases plus récentes qui s'étagent jusqu'au 7e siècle de notre ère. Ainsi, les fouilles jusqu'au sol vierge ont été très limitées en extension. En outre, tant les processus d'urbanisation continus durant l'Antiquité que le phénomène de subsidence des terres ont réduit la possibilité de connaître les plus anciens bâtiments de Sibaris. Ces limitations rendent donc fragile la reconstruction actuelle que la poursuite des recherches confirmera ou infirmera. Dans notre prochaine conférence, nous examinerons une situation tout à fait différente concernant les phases les plus anciennes de Pompéi, ville italique et non fondation grecque. Merci.